La fraternité Saint-Pédis, œuvre d'église. Donc mon but ici, c'est plutôt un rôle de défense de la fraternité Saint-Pédis pour montrer que la fraternité Saint-Pédis est bel et bien une œuvre d'église. Et le but est aussi de vous aider, si vous voulez, à garder, à avoir, ou à acquérir, ou à garder, en tout cas, bien ce sens de l'Église. Parce que c'est capital. Il n'y a pas deux Églises, vous voyez, il n'y a qu'une seule Église. L'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Et donc, il est très important pour vous-même et pour vos enfants d'avoir ce sens de l'Église. Et il faut essayer de faire comprendre à vos enfants, ce qu'est l'Église, et de bien leur montrer que la fraternité Saint-Pédis est un rameau vivant de l'Église. La fraternité Saint-Pédis n'est pas l'Église, hein, mais la fraternité Saint-Pédis est un rameau vivant de l'Église. Et donc ce rameau vivant, il faut l'aimer, mais ensuite on doit aimer l'Église en elle-même. Et donc, comme notre Église est malade, elle est même gravement malade. Eh bien, l'Église est notre mère, et notre mère est gravement malade. Par conséquent, on doit l'aimer encore davantage, parce qu'elle est malade. Et donc, c'est très important de bien prier pour le pape, pour les évêques, pour les prêtres, pour tous ceux qui, même aussi, font, hélas, aujourd'hui, fausse route, qui sont aussi membres de l'Église. Donc, pour vous aider à cela, tout d'abord, je voudrais, en tout cas, surtout, mettre l'accent sur le fait que la fraternité Saint-Pédis donc est une œuvre d'Église. Alors, pour en arriver à prouver cela, je vais commencer très très loin, puisque je vais parler de la lutte acharnée entre Dieu et Satan, qui a débuté bien avant votre naissance et la mienne, puisque cette lutte acharnée a commencé au péché originel. Donc on part de très loin, vous voyez. Et dans cette lutte, c'est très important pour vous, spécialement de bien le retenir, il y a la place de la femme qui est indiquée. En effet, dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, verset 15, Dieu dit, « Je mettrai une inimitié entre toi, il s'agit du serpent, et la femme entre ta descendance et sa descendance. Donc je mettrai une inimitié entre toi, le serpent, et la femme entre ta descendance, donc la descendance de Satan, et la descendance de la femme. Alors quelle est la femme en question? C'est bien sûr la très sainte Vierge Marie. Et la descendance de la femme, eh bien ce sont tous les enfants de Marie. Donc il y a un combat qui existe entre Dieu et Satan, et qui partage aussi l'humanité en deux. Et ceci depuis, hélas, l'origine de, depuis la chute de nos premiers parents. Et c'est ainsi qu'on voit, par exemple, bien que les premiers enfants d'Adam et Ève, Caïn et Abel, sont disputés, Caïn a tué son frère Abel. Donc on voit tout de suite Abel le juste, et Caïn, qui, lui, représentait les méchants. Donc on retrouve ici donc deux enfants, l'un représentant le bien, l'autre le mal. Et cette lutte acharnée donc entre Dieu et Satan, lutte qui se concrétise ici-bas par la place de la femme, va se retrouver jusqu'à la fin des temps. Le dernier livre de la Bible, c'est l'Apocalypse. Et dans le livre de l'Apocalypse, eh bien, on retrouve une femme qui lutte contre le dragon. Donc au livre de la Genèse, on voit la lutte entre le serpent et la femme. Dans le livre de l'Apocalypse, on voit une lutte entre la femme et le dragon. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme revêtue du soleil, la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon couleur de feu avec 7 têtes et 10 cornes et 7 diadèmes sur ses têtes. Le démon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait mis au monde. Apocalypse chapitre 12, versets 1 à 4. Donc ce qui est capital, c'est de savoir qu'il y a une lutte ici-bas entre Dieu et Satan. Et donc souvent, on parle de combat spirituel et tout cela. Et c'est vrai que dans le monde moderne, on parle plus de combat. Le mot combat, ça fait, on a l'impression que c'est les croisades. Enfin, donc ça donne une idée un peu vieux jeu. Et donc aujourd'hui, Christ est ressuscité, alléluia, soyons dans la joie. C'est plutôt une note plus positive qu'il faut avoir. Donc on oublie en fait cette lutte qui existe entre Dieu et Satan. Alors maintenant, après avoir vu donc que cette lutte existe depuis toujours, existera jusqu'à la fin des temps, voyons quelques mots sur les antécédents de la crise actuelle et la réaction des papes. On peut dire que tous les papes de Pie VI à Benoît XV ramènent la crise actuelle de la foi à la lutte engagée contre l'Église au XVIe siècle par le protestantisme et au naturalisme dont cette hérésie a été la cause et la première propagatrice. Donc toutes les erreurs modernes ont leur source dans le protestantisme qui est apparu au XVIe siècle. Donc le protestantisme a donné comme première erreur le naturalisme. Le naturalisme, c'est le refus de ce qui est au-dessus de la nature, donc le refus du surnaturel. Et si on refuse le surnaturel, il faut détruire le surnaturel. Alors Satan, si vous voulez, a voulu procéder par étapes. À savoir que pour détruire l'image de Dieu sur la terre, il a commencé par s'attaquer d'abord à la civilisation chrétienne. Et c'est ce qui s'est opéré par la Révolution française. Et spécialement la décapitation du roi, qui représentait l'ordre, la hiérarchie, la civilisation chrétienne, est une étape dans la destruction de la société chrétienne. Décapitation du roi qui amène maintenant de nouveaux principes, les principes de liberté, égalité, fraternité. Notez que le 23 avril 1791, donc juste on était en pleine révolution, le pape Pie VI déjà à l'époque condamne les droits de l'homme. Donc les droits de l'homme ont été condamnés déjà par le pape dès 1791, dans l'encyclique « Adeo Nota ». Donc la franc-maçonnerie est apparue au début du XVIIIe, et c'est elle, nous disent les papes, qui a été à l'origine de la Révolution. La Révolution a conduit à la déchristianisation de la société. Une fois que la société est devenue païenne, ou inspirée de principes païens, il y avait d'un côté une société donc qui n'était plus chrétienne, et d'un autre côté, il y avait une religion catholique qui était encore donc la bonne religion chrétienne. Et au 19e, alors, est apparue donc une espèce d'entente entre certains catholiques et les membres de la société qui étaient imbus des principes modernes. Et donc, c'est ce qu'on a appelé le libéralisme. Le libéralisme, c'est une union entre le nouveau courant de pensée dont a été imprégnée la société française au XVIIIe siècle, spécialement par les philosophes. Donc, nouveau courant de pensée qui a commencé à toucher certains catholiques. Parce que l'Église catholique avait ses exigences et la nouvelle société avait ses nouveaux principes. Donc, nouveaux principes d'un côté, l'Église catholique, elle, garde sa rigueur, mais certains catholiques vont essayer, en fait, de s'inspirer des nouveaux principes tout en restant catholiques. Et c'est ce qu'on a appelé les catholiques libéraux. Et cet écueil, donc, a touché un certain nombre de catholiques au XIXe siècle. Et ici, il est très intéressant de voir qu'au début du XIXe siècle, des papiers de la haute vente, qui est la franc-maçonnerie italienne, nous font découvrir le plan de l'ennemi, donc le plan des francs-maçons. Ce texte est tombé entre les mains du pape et le pape Pie IX a demandé en fait de la publier. Donc si le pape lui-même a demandé de publier le texte que je vais lire, c'est bien parce qu'il y croyait. Donc c'est pas, si vous voulez, un texte qui a été pondu par un mystico-dingo et puis qui aurait été répandu ensuite par des gens un peu fada. Non, non, si le pape lui-même demande de publier ce texte, ça montre qu'il y croyait. Donc, qu'est-ce qu'il était écrit donc dans ces papiers de la haute vente que pape Pie IX a demandé de publier? Ce que nous attendons, ce sont des francs-maçons qui parlent, hein, ce que nous attendons, comme les juifs attendent le Messie, c'est un pape selon nos besoins. Nous ne doutons pas d'arriver à ce terme suprême de nos efforts. Alors, de quelle manière? Donc, on sent bien. Donc, on se dit, les ennemis, en 1820, donc, ils ont déjà coupé la tête du roi. Maintenant, ils en veulent au pape. Et c'est tout à fait logique, du point de vue de l'erreur. Donc, d'abord, la société civile. Et puis après, eh bien, l'Église catholique. Et comment s'attaquer à l'Église? Il faut s'attaquer à la tête de l'Église, comme on s'est attaqué à la tête de celui qui représentait la société civile, donc le roi. Donc, c'est un pape selon nos besoins. Nous ne doutons pas d'arriver à ce terme suprême de nos efforts. Alors, quelle va être leur tactique pour faire en sorte d'arriver à avoir un pape selon leurs besoins, selon le besoin des francs-maçons? Il s'agit d'abord de lui façonner à ce pape une génération digne du règne que nous rêvons. Donc, il faut faire en sorte de changer les mentalités des hommes pour que faire en sorte que parmi ces hommes, certains rentrent dans les séminaires, deviennent prêtres, ensuite deviennent évêques, et puis ensuite puissent élire le pape dont on rêve. Voilà le projet, en fait, de la franc-maçonnerie. Tendez, donc là je cite toujours cette lettre, donc demandée d'être publiée par le pape, que le pape Pie IX a demandé de publier, tendez vos filets au fond des sacristies, des séminaires et des couvents. Si vous ne précipitez rien, nous vous promettons une pêche plus miraculeuse que celle de Simon Bariona. Vous aurez prêché une révolution en tiare et en chape, marchant avec la croix et la bannière, une révolution qui n'aura besoin que d'être un peu aiguillonnée pour mettre le feu aux quatre coins du monde. Donc, les francs-maçons, début du 19e, ils se disent, comment faire, maintenant qu'on a pu faire en sorte que plusieurs sociétés donc soient déchristianisées, comment faire maintenant pour s'attaquer à l'Église? Eh bien, la tactique, on va rentrer dans les séminaires, faire en sorte de changer la mentalité des séminaristes. Ces séminaristes deviendront prêtres, parmi ces prêtres, certains deviendront évêques, et un jour, ils pourront, en ce moment-là, élire un pape selon notre idéal. Ça, c'était en 1820. Maintenant, 80 ans plus tard, donc, nous avons comme pape le grand pape Saint Pie X. Et le grand pape Saint Pie X, eh bien, dans son encyclique Pascendi, écrite en 1907, dénonce l'intrusion de l'ennemi au sein même de l'Église catholique. Donc, le pape Saint Pie X constate que les ennemis maintenant ne sont plus simplement hors de l'Église, comme c'était le cas avant. On pouvait les dénoncer par les protestants, le protestantisme qui voulait s'attaquer à l'Église, ou la franc-maçonnerie qui voulait s'attaquer à l'Église. Il constate que l'ennemi n'est plus uniquement à l'extérieur, mais a commencé à rentrer à l'intérieur de l'Église. Voici ce qu'il écrit dans son encyclique Pascendi. Les artisans de l'erreur se cachent dans le sein même et au cœur de l'Église, ennemis d'autant plus redoutables qu'ils le sont moins ouvertement. Il parle de prêtres qui, imprégnés jusqu'aux moelles d'un venin d'erreur puisé chez les adversaires de la foi catholique, se posent au mépris de toute modestie comme rénovateurs de l'Église. Donc, il parle de prêtres qui sont officiellement dans l'Église, mais qui, en fait, sont imprégnés jusqu'aux moelles d'un venin d'erreur qu'ils ont puisé chez les adversaires de la foi catholique. Et les adversaires de la foi catholique sont justement les francs-maçons. Et de quelle manière, alors, ce venin apparaît-il? Le pape dit que ces gens-là, en fait, se manifestent comme étant rénovateurs de l'Église. Donc, l'argument utilisé par ces prêtres qui veulent détruire l'Église, c'est qu'ils veulent rénover l'Église. Donc, je dis que le démon, toujours, ne se montre pas tel qu'il est. Il dit pas, je suis le démon, je viens vous conduire en enfer, suivez-moi, c'est par là. Personne ne suivrait, vous voyez. Donc, il va se cacher. Alors, quelle est la tactique qu'il utilise ici? Eh bien, c'est, on va rénover l'Église. On va dire, l'Église, faut quand même un petit peu la dépoussiérer, les gens comprennent rien au latin, ce serait peut-être bien si on pouvait quand même utiliser un langage vernaculaire. Donc, c'est les arguments qu'ils vont utiliser pour changer l'Église de l'intérieur. Et le pape Saint Pie X, qui était lucide, eh bien, constate cette pénétration de l'ennemi à l'intérieur même de l'Église. Alors, lui-même va utiliser, il aura toute une stratégie pour chercher à fustiger les modernistes, à essayer de les repérer, de les mettre de côté, mais malheureusement, son action ne sera pas aussi efficace qu'il l'aurait voulu, si bien que, quelque temps avant sa mort, il dit aux cardinaux, le 27 mai 1914, « Nous sommes en un temps où l'on accueille et adopte avec facilité certaines idées de conciliation de la foi avec l'esprit moderne. Donc là, on trouve encore, vous voyez, l'erreur du modernisme, c'est vouloir concilier la foi catholique avec les idées modernes. Idées, dit le pape Saint-Pie X, qui conduisent plus loin qu'on ne le pense, non pas seulement à l'affaiblissement, mais à la perte totale de la foi. Et le pape poursuit, combien de navigateurs, combien de pilotes, et ce qu'à Dieu ne plaise, combien de capitaines, au lieu d'arriver au port, ont fait naufrage. Donc si le pape parle de navigateurs, s'il parle de pilotes, s'il parle de capitaines, il s'agit bien, là, non pas de simples fidèles, mais de prêtres et sans doute d'évêques, qui étaient déjà imbus, donc dans les années donc 1914, au moment où il parle, étaient imbus de ces idées nouvelles. Et ça, c'était un peu de temps avant de mourir. Et donc, il montre, vous voyez, que la gravité du modernisme, c'est que c'est une erreur qui donc touche le cœur même de l'Église. Donc, ce n'est pas une erreur qui va toucher simplement un dogme, ce qui serait déjà très grave. Mais c'est une erreur qui va s'attaquer à la foi elle-même. Il va y avoir une foi moderniste qui ne sera plus la foi catholique. Donc, ce qui est grave dans le modernisme, c'est que on va garder certains termes, mais on va en changer le sens. Par exemple, on va garder le terme de tradition, mais le terme de tradition n'a pas le même sens pour eux que pour nous. Pour nous, le terme de tradition veut dire fidélité dans la transmission du dépôt de la foi. Pour eux, la tradition, ça veut dire, eh bien, la tradition aujourd'hui, c'est Vatican II. Donc la tradition, ben, c'est le fait de... la tradition importe une notion évolutive, et donc, puisqu'il y a eu un nouveau concile, la tradition aujourd'hui, eh bien, c'est Vatican II. Donc les mêmes termes n'ont plus le même sens. 14 ans plus tard, après donc la mort de Saint Pie X, hein, donc c'est Pie XI qui est pape, hein, et en ce moment-là, le pape Pie XI, lui, s'inquiète en voyant une nouvelle erreur qui s'infiltre à l'intérieur de l'Église. Cette erreur s'appelle l'écuménisme. Et donc, il écrit une encyclique, l'encyclique Mortalium Animos, où il va dénoncer cet écuménisme. L'écuménisme n'est pas encore le dialogue interreligieux. Dans le dialogue interreligieux, c'est le dialogue entre les religions donc dites chrétiennes et les religions non chrétiennes. L'écuménisme regarde uniquement les religions, entre guillemets, chrétiennes, c'est-à-dire les liens entre la religion catholique, la religion orthodoxe, et puis ou même les religions orthodoxes, parce qu'il y en a plusieurs, et puis les sectes protestantes, enfin, soi-disant la religion protestante. Donc l'écuménisme regarde uniquement donc les rapports entre chrétiens. Et le pape Pie XI, comment jugeait-il donc ce rapprochement entre catholiques et protestants, spécialement donc qui existait de son temps? Il disait en fait que ces relations qu'on cherchait à entretenir entre catholiques et les protestants étaient des relations ambiguës, très dangereuses pour la foi. Parce que, écrit le pape Pie XI, donc je cite, dans Mortalium Animos, ces relations partent d'une idée fausse, à savoir que les religions seraient toutes plus ou moins bonnes et louables. Les papes ont toujours dit, il disait les encycliques des papes, ont toujours dit, il y a une seule religion, c'est la religion catholique. Une seule religion qui est vraie, c'est la religion catholique. La religion, ça veut dire le lien, il y a un lien entre Dieu et nous. Ben, le Christ, en venant sur la terre, n'a pas inventé 36 religions. Il a inventé une religion. Il a dit, tu es pierre, cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prouveront pas contre elle. Donc il y a une seule religion, la religion catholique. Les papes ont toujours dit qu'il y avait une seule religion. Or, justement, dans l'écuménisme, eh bien, on part du fait qu'il n'y a pas une seule religion, qu'il y en aurait plusieurs, et qu'elle serait plus ou moins bonne. Et il ajoute, les partisans de cette théorie, donc qui aurait, soi-disant, donc du plus et du moins dans les religions, s'égare en pleine erreur. Mais de plus, en pervertissant la notion de la vraie religion, vous voyez, il dit de la vraie religion. Pour le pape, il n'y a qu'une seule religion qui est vraie, c'est la religion catholique. Il la répudie et il verse par étapes dans le naturalisme et l'athéisme. Donc ceux qui cherchent ainsi à unir les différents membres des religions entre eux, ils vont glisser petit à petit dans le naturalisme, qui est donc l'erreur qui nous vient du protestantisme, et ensuite après dans l'athéisme. Le pape dit, la conclusion est claire, se solidariser des partisans et des propagateurs de pareilles doctrines, c'est s'éloigner complètement de la religion divinement révélée. Donc il dit pas c'est une erreur pédagogique, vous vous trompez dans votre approche, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il va beaucoup plus loin. Il dit si vous vous solidarisez les partisans de cette erreur-là, en ce moment-là, vous vous éloignez complètement de la religion divinement révélée. Vous voyez. Nous, on est tellement habitués, si vous voulez, donc en voyant ça beaucoup plus tard maintenant, donc en 2004, de voir ces liens entre les religions, tout ça, qu'on se dit sans doute c'est pas bien, c'est pas comme ça qu'il faudrait faire, mais on se rend pas forcément compte de la gravité. Mais là, ce sont les papes qui parlent, vous voyez, c'est pas Mgr Lefebvre qui parle, ce sont les papes eux-mêmes qui parlent et qui dénoncent cela. Et déjà, à l'époque, c'est là qu'on voit que, si vous voulez, que la contre-église, donc, a bien ses maîtres, et ses maîtres qui ont leur idée en tête et qui veulent très bien, qui ont une stratégie qui est bien définie. Le pape disait à l'époque que certains souhaiteraient que leur fameux congrès soit présidé par le pontife lui-même. Donc déjà, en 1928, certains désiraient que le pape lui-même préside ce genre de congrès. Alors, que dit le pape Pie XI concernant eh bien, ces congrès entre catholiques et protestants? Il disait, et donc là vous pouvez lire vous-même l'encyclique, hein, elle est tout à fait accessible, « Il va de soi que le siège apostolique ne peut d'aucune manière participer à leur congrès. S'il le faisait, il accorderait une autorité à une fausse religion chrétienne entièrement étrangère à l'unique Église du Christ. » Donc, vous voyez, le pape Pie XI dit clairement que le pape ne peut pas cautionner ce genre de réunion, parce qu'en les cautionnant, en ce moment-là, il donne une autorité à une fausse religion. Et on ne peut pas donner une autorité à une fausse religion, parce que, en ce moment-là, au lieu que les protestants se convertissent, ils pourront croire qu'ils pourront se sauver dans leur religion. Donc, la seule solution acceptable pour le pape Pie XI, c'était que les protestants, eh bien, de les inviter, bien sûr, à revenir dans la véritable église qu'ils ont eu le malheur, dont ils ont eu le malheur de se séparer. On continue à avancer dans le temps, on arrive en 1947. Le pape Pie XII déplore des innovations dans la liturgie. Il parle de messe déjà en 1947, célébrée en langue vernaculaire. Donc, dans la langue du pays. Au lieu que les messes soient célébrées en latin, il voit qu'il y a des langues qui commencent à être célébrées donc les messes sont célébrées dans la langue du pays. Et donc il dénonce ce genre de choses, et puis il précise encore aussi dans une encyclique qu'il fait sur la liturgie, ce serait sortir de la voie droite de vouloir rendre à l'autel sa forme primitive de table. Donc de remplacer l'autel par une table, il dit ça va pas. Ou encore de vouloir supprimer de la couleur liturgique le noir. Bon, aujourd'hui, tous les enterrements se font en violet. Ou d'exclure des temples, les images et les statues. Alors, regardez le nombre de statues et d'images qui ont été cassées et sorties des églises depuis le concile. Donc, ce qui est très intéressant, si vous voulez, c'est que quand on étudie uniquement les encycliques des papes, là j'ai pris uniquement, c'est très synthétique ce que je fais, mais vous pourrez très bien prendre les autres textes des papes et vous verrez que ça va toujours dans le même sens. Donc quand on lit ce que les papes ont pu dire depuis le XVIIIe siècle sur la franc-maçonnerie et sur la tactique de l'ennemi et sur la pénétration de l'ennemi à l'intérieur de l'Église, eh bien on s'aperçoit, si vous voulez, qu'il y a une stratégie bien définie de l'ennemi, donc qui lui donc a bien son projet en tête, et on voit une résistance de la part des papes qui dénoncent, qui tirent le signal d'alarme pour dénoncer les erreurs et l'envahissement progressif de l'ennemi à l'intérieur de l'Église. Donc la stratégie, là, elle est très très claire. Maintenant arrive le Concile Vatican II. Avant même l'ouverture du Concile, on voit apparaître deux camps opposés. D'un côté, le camp libéral, représenté en particulier par le cardinal Swenens, et puis de l'autre côté, les évêques conservateurs, qui se sont regroupés dans ce qu'ils ont appelé le Cetus Internationalis Patrum, donc l'Assemblée internationale des pères. Il y avait 250 évêques qui faisaient partie, de ces évêques conservateurs faisaient partie de ce Cetus Internationalis Patrum. Donc il y avait 2500 évêques à peu près au concile, si vous voulez. Donc comme c'est le cas souvent, il y avait en gros, si on pourrait dire ça d'une façon très schématique, 10% d'évêques modernistes, donc très modernistes, qui voulaient en fait chambouler l'Église, 10% d'évêques conservateurs, qui eux donc avaient conscience qu'il y avait des gens en face qui voulaient que l'Église change et qui eux donc voulaient résister, Et puis ensuite, vous avez 80% des évêques qui, eux, ben, regardaient un petit peu ce qui se passe et regardaient un petit peu, se tourner vers le pape pour voir comment le pape allait réagir. Alors malheureusement, en raison spécialement, donc déjà du pape Jean XXIII qui était faible, et surtout du pape Paul VI qui était lui-même libéral, eh bien c'est le camp libéral qui va triompher au concile. Alors ça c'est vraiment triste de s'apercevoir, et un mystère même pour nous, comment le bon Dieu a pu permettre que ce soit le camp libéral qui fasse passer ses idées au concile. Ça c'est un grand mystère, on en parlera après, mystère de la passion de l'Église. Mais le pape, par exemple, le cardinal Ratzinger lui-même reconnaît que le texte Gaudium et Spes, donc un des textes importants du concile, joue le rôle d'un contre-syllabus, le syllabus donc du pape Pie IX. Et donc le cardinal Ratzinger dit Gaudium et Spes est un contre-syllabus. Alors il explique ce qu'il entend par là. Le syllabus condamnait les erreurs modernes. Et le cardinal Ratzinger dit Gaudium et Spes est un contre-syllabus. Donc ça veut dire que dans le texte Gaudium et Spes, eh bien, au lieu de condamner ce que les papes Pie IX avaient condamné, au contraire, on prend la défense de ceux qui s'opposaient à l'Église. Alors, il dit ceci en fait exactement, dans le texte Gaudium et Spes joue le rôle d'un contre-syllabus, dans la mesure où il représente une tentative de réconciliation officielle de l'Église avec le monde tel qu'il est devenu depuis 1789. Donc, si vous voulez, en résumé, donc on peut dire, le texte Gaudium et Spes, c'est 1789 dans l'Église, c'est la Révolution dans l'Église. Et c'est vrai que la fameuse trilogie Liberté, Égalité, Fraternité, donc qui est chère aux francs-maçons, apparaît à travers la liberté religieuse, à travers la collégialité et à travers l'écuménisme. On va retrouver ces trois dimensions de liberté, liberté religieuse, égalité, collégialité, où les évêques se retrouvent donc formant un collège avec le pape. Et puis fraternité, c'est l'écuménisme, donc on est tous frères, donc on se donne la main. Et les droits de l'homme sont désormais adoptés par la hiérarchie catholique elle-même. Donc droits de l'homme qui, comme j'avais dit, avait été condamné par le pape Pie VI en 1791. Et la nouvelle messe va être malheureusement le fruit le plus amer de ce nouveau courant de pensée, puisque cette nouvelle messe elle-même a une intention écuménique qui était très claire. Il s'agissait de se rapprocher des protestants. Donc la nouvelle messe, si vous voulez, n'a pas été faite dans le but de permettre aux catholiques d'être plus catholiques. La nouvelle messe a été faite dans le but de permettre un plus grand rapprochement entre catholiques et protestants. Luther avait dit « détruisez la messe et vous détruirez l'Église ». Donc il abhorrait, comme il dit, la messe papiste. Et par conséquent, la messe était un des grands obstacles au rapprochement entre catholiques et protestants. Alors, puisqu'aujourd'hui, eh bien, depuis le concile, on a une nouvelle approche des religions et qu'on cherche à les unir, eh bien, on s'est dit, il faut essayer de faire une messe qui puisse être acceptable aussi bien par des catholiques que par des protestants. Et on a fait la nouvelle messe. Et le résultat a été tout à fait probant, enfin, dans le sens de ce que l'ennemi recherchait, en tout cas, puisque plusieurs théologiens protestants disent que pour eux, ça ne les dérange absolument pas de dire la nouvelle messe. Or, jamais un protestant n'aurait dit une messe traditionnelle, encore une fois. Donc la nouvelle messe a été faite avec des protestants dans le but de plaire aux protestants. Donc la nouvelle messe a une connotation écuménique. Alors la nouvelle messe, bien sûr, c'est un chef-d'œuvre d'ambiguïté, si vous voulez. Donc elle n'est pas directement, si vous voulez, ce n'est pas la scène protestante. Mais si vous voulez, les textes eux-mêmes vont dans le sens, peuvent être, si vous voulez, être célébrés avec un protestant, donc sans aucun scrupule de conscience, et peuvent aussi être célébrés par un prêtre catholique qui, lui, donc, va garder sa mentalité catholique et donc va chercher à donner un sens catholique aux mots qui n'ont pas forcément ce sens. Parce que ça, c'est justement là qu'est l'ambiguïté. C'est que le langage catholique, vous voyez, est un langage qui est clair. Et en général, malheureusement, on voit bien cela, si vous lisez les encycliques du pape aujourd'hui, parfois on se dit, mais qu'est-ce qu'il a bien voulu dire? On ne comprend pas très bien, vous voyez. Ou quand on écoute des sermons aujourd'hui dans les églises, parfois on se dit, mais qu'est-ce qu'il a bien voulu dire? C'est pas très clair. Tandis qu'en général, dans la religion de toujours, c'est pas forcément facile, la religion de toujours, mais au moins c'est clair. Donc il y a une ligne directrice et elle est claire. Et donc le démon, justement, qui ne veut pas être reconnu comme tel, eh bien lui, il aime tout ce qui est flou, tout ce qui est vague, tout ce qui est imprécis, et c'est comme ça que l'ennemi a pénétré à l'intérieur de l'Église. Donc il faut savoir, si vous voulez, que c'est dans ce contexte que la fraternité Saint-Pédis est née, vous voyez. Il est capital d'avoir bien en tête tout ce que je vous ai dit jusqu'ici pour bien comprendre l'attitude de Mgr Lefebvre, un, dans la fondation de la fraternité Saint-Pédis, deux, dans le fait qu'il ait continué à son œuvre de la fraternité Saint-Pédis malgré l'opposition de Rome. Donc Mgr Lefebvre, voyant l'autodémolition de l'Église, le terme d'autodémolition est de Paul VI, qui lui-même a parlé d'autodémolition de l'Église, a décidé de résister à cette autodestruction en fondant une fraternité sacerdotale, avec comme objectif la propagation du sacerdoce catholique et tout ce qu'il renferme. Notons aussi ici que Mgr Lefebvre avait 65 ans à l'époque et qu'il s'était retiré à Fribourg avec l'intention au départ de prendre une retraite bien légitime. Dans cette période en plus de crise, on voyait plus très clair, donc il s'était plutôt retiré. Et ce sont des jeunes gens qui sont venus le voir en disant « Ah, Monseigneur, est-ce que vous pourriez faire quelque chose pour nous ?» Et Monseigneur disait que, eh bien, pour lui, le signe que l'Église voulait vraiment qu'il continue, c'était que si l'évêque de Fribourg lui donnait le feu vert. Il est parti voir l'évêque de Fribourg qui lui a dit « Oui, oui, bien sûr, faites quelque chose. » Et ça a été le signe. Donc, il faut savoir que la fraternité Saint-Pédis est née, si vous voulez, dans la légalité, puisque la fraternité a été reconnue comme œuvre d'Église au départ. Donc ça, c'est très important aussi. Mgr Lefebvre donc tenait à le rappeler. Donc surtout pour les plus jeunes parmi vous, là qui ne connaissent pas la genèse de la fraternité Saint-Pédis. Et donc c'est important de le savoir. Donc il ne faudrait pas imaginer que c'est Mgr Lefebvre se rendant compte que ça n'allait pas donc dans l'Église officielle. Donc il claque la porte et puis il fait son petit truc à côté. On appelle ça la fraternité Saint-Pédis. Vous voyez, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Les statuts de la fraternité Saint-Pédis ont été reconnus officiellement, donc, par l'évêque du lieu où se trouvait Mgr Lefebvre lorsqu'il l'a fondé. Maintenant, c'est vrai qu'en 1974, puisque certains séminaristes, dont il faut 6 ans pour faire un prêtre, aujourd'hui il faut 6 ans pour faire un prêtre, mais certains qui sont venus donc voir Mgr Lefebvre, ils étaient déjà séminaristes, ils avaient commencé leur séminaire à Rome. Donc, Mgr Lefebvre les a ordonnés assez rapidement. C'est ce qui explique qu'il y a eu des ordinations dès 1971, 1972. Et donc, en 1974, il y avait déjà les premiers prêtres de la fraternité qui arrivaient en France. Très peu nombreux, mais il y en avait quelques-uns. Et les évêques français étant la mentalité donc d'évêques 68ards, donc gauchisants, et très modernes, ont vu d'un très mauvais œil ces prêtres, ces soutanosaures, donc arriver sur le sol de France. Et du coup, ils se sont plaints à Rome et ils ont supplié le pape de faire quelque chose. Alors le pape, à ce moment-là, a envoyé donc des prélats romains qui sont venus à Écône pour voir comment ça se passait à Écône. Mais malheureusement, ces visiteurs étaient imbus vraiment des idées modernes. Et Mgr Lefebvre, donc, m'a scandalisé par cette visite. Il a eu cette fameuse déclaration de novembre 1974 où il disait oui à la Rome catholique, non à la Rome moderniste. Finalement, le temps a passé et en 1976, le pape, influencé donc par ses visiteurs, donc qui avaient vu le séminaire à l'époque, a demandé à Mgr Lefebvre de cesser les ordinations et de fermer son séminaire. Mais Mgr avait estimé que cette sanction était injuste. Et donc, a continué son séminaire. Si bien que le pape, à l'époque, l'a suspendu à Divinis, donc lui a dit de ne plus donner les sacrements. Mais Monseigneur n'a pas tenu compte des sanctions, en raison à la fois des vices de forme dans la procédure, parce que même si vous voulez, quand il y a une condamnation dans l'Église, eh bien, il y a des lois ecclésiastiques, et donc ces lois n'avaient pas été observées. Donc il y avait des vices de forme dans la procédure de condamnation de Monseigneur. Et également donc parce qu'il les estimait injustes. Mgr Lefebvre disait toujours « Par qui je suis condamné et pourquoi je suis condamné ?»« Je suis condamné pour ma fidélité à l'Église de toujours et pour mon refus des innovations qui détruisent l'Église. » Il disait aussi souvent « Ce qui m'a valu les éloges du temps du pape Pie XII, me vaut aujourd'hui des condamnations. Et une Église qui change ainsi d'orientation n'est pas crédible. » Donc maintenant, pour bien comprendre comment Mgr Lefebvre est allé jusqu'à ne pas suivre, l'ordre du pape, qui était donc de fermer son séminaire, il est important que vous compreniez bien, en fait, les limites de la vertu d'obéissance. Donc jusqu'ici, je vous ai montré, si vous voulez, l'origine de la crise dans l'Église. Je vous ai montré que par un dessein mystérieux de la Providence, c'est malheureusement l'ennemi qui a fini par influencer l'Église de l'intérieur au point d'arriver au Concile Vatican II, au décret du Concile et à la Nouvelle Messe. Monseigneur Lefebvre, voyant cela, eh bien, a voulu que l'Église continue selon l'orientation de toujours. Le pape lui-même, à l'époque, étant imbu des idées nouvelles, eh bien, a demandé à Monseigneur Lefebvre de se fermer son séminaire. Pourquoi il lui a demandé de fermer son séminaire? Tout simplement parce que lui-même était moderniste, que Monseigneur Lefebvre était donc fidèle à la tradition. Alors, question qui se pose, est-il possible qu'un évêque s'oppose au pape? Et est-ce que c'est permis, une chose pareille? Voilà. Alors, il faut savoir ici, donc, chère retraitante, que l'obéissance est une vertu morale. Et toute vertu morale se trouve dans un milieu. Donc, on étudie ça donc en philosophie déjà, et dans le catéchisme. Toute vertu morale se situe dans un milieu. Par exemple, la vertu de prudence est une vertu morale. Donc la prudence va m'inviter, dans les grandes décisions, à réfléchir avant d'agir. Mais il y a ceux qui ne réfléchissent pas assez, donc ils sont imprudents, et ceux qui réfléchissent trop. Et c'est aussi encore un excès. Donc il faut réfléchir juste ce qu'il faut, puis après il faut se décider. Donc on peut pécher par imprudence en étant précipité, et on peut aussi pécher par imprudence en étant toujours indécis, en ne prenant jamais de décision. Voyez. Donc la prudence est une vertu morale, elle se situe dans un milieu. Vous connaissez l'expression qui dit « courageux mais pas téméraire ». Donc le courage est une vertu, la force est une vertu, donc la faiblesse est un vice, mais ensuite la témérité en est un autre. Donc il faut la force est une vertu morale, donc un juste milieu entre d'un côté la faiblesse qu'il faut éviter et la témérité qu'il faut éviter. Il y a des moments où il faut aller de l'avant et des moments où il faut savoir s'arrêter. Donc celui qui ne va pas de l'avant, il fait preuve de faiblesse. Celui qui continue alors qu'il devrait arrêter, il fait preuve de témérité. Donc la vertu de force se situe dans un milieu. La vertu d'obéissance est une vertu morale, c'est pas une vertu théologale. Donc elle aussi se situe dans un milieu. Donc je peux pécher par manque d'obéissance, mais je peux pécher aussi par excès d'obéissance, parce que l'obéissance se situe dans un milieu. Donc quel est le milieu donc, qui va me permettre de me montrer si l'obéissance est bonne ou mauvaise? C'est que l'obéissance est une vertu qui est relative au bien. Donc c'est la norme de l'obéissance, c'est le bien. Et la norme de l'obéissance aussi, ce sont les limites de l'autorité. Donc toute autorité a certaines limites. Et donc, si une autorité me demande quelque chose mais qui dépasse ses compétences, je suis pas tenu de le suivre. Aussi bien, je sais pas, moi, dans votre contrat, c'est pas forcément marqué que vous devez servir le petit café à votre patron. Donc si vous exigez d'avoir le petit café à 10 heures, vous n'êtes pas forcément obligé de lui obéir. Hein. Parce qu'en ce moment-là, il dépasse en fait son rôle d'autorité. Vous voyez. Donc l'obéissance est dans un juste milieu. Or, un autre exemple, si vous voulez, peut-être encore plus clair, beaucoup plus clair, si vous voulez. Donc si les enfants doivent obéir à leurs parents, je pense que tous les parents ici sont d'accord. Mais si maintenant un père de famille pousse sa fille à avorter, eh bien je suis désolé, elle a le devoir de lui désobéir. Donc vous voyez bien que l'obéissance n'est pas une vertu absolue. Donc, au siècle dernier, l'Église elle-même a défini l'infaillibilité du pape. Mais infaillibilité n'est pas infaillibilisme. Donc le pape est infaillible, mais pas chaque fois qu'il ouvre la bouche. Il y a des circonstances où il est infaillible, et alors il ne peut pas se tromper, et des circonstances où il est faillible, et là il peut se tromper. Donc la constitution Pastor Eternus, qui a défini l'infaillibilité du pape, établit donc elle-même les limites de cette infaillibilité, en disant... Le Saint-Esprit n'a pas été promis au successeur de Pierre pour qu'il fasse connaître sous sa révélation une nouvelle doctrine, mais pour qu'avec son assistance, il garde saintement et expose fidèlement le dépôt de la foi. Donc le Saint-Esprit a été promis au successeur de Pierre, mais pas pour que le successeur de Pierre fasse n'importe quoi. Le Saint-Esprit a été promis au successeur de Pierre pour qu'il fasse connaître non pas une nouvelle doctrine, mais pour qu'avec son assistance, il garde saintement et expose fidèlement le dépôt de la foi. Donc le rôle du pape, c'est de permettre que la foi soit transmise de génération en génération dans son intégrité. C'est là son rôle. et de faire en sorte que la morale catholique soit enseignée partout dans son intégrité. Donc si le pape eh bien, s'écarte de cela, en ce moment-là, il n'est plus sous la motion de l'Esprit-Saint. Et donc, en ce moment-là, il peut s'égarer. Donc l'obéissance que le bon Dieu réclame de nous n'est pas une obéissance aveugle, mais une obéissance éclairée. Notre Seigneur nous a dit qu'il fallait se méfier des faux docteurs. Si on doit se méfier des faux docteurs, eh bien le docteur, c'est celui qui normalement est censé donc nous guider. Donc ça veut dire qu'il faut se méfier de ceux qui nous guident. Alors là, je distinguerais une période normale et une période anormale. En période normale, eh bien, on n'a pas à se poser trop de questions, heureusement. Mais en période anormale, eh bien, c'est normal qu'on se pose des questions. Okay. Donc, bon, j'ai eu quelques discussions avec le père Abbé, donc, qui se trouve de l'autre côté là, du village. En particulier là-dessus, sur le fait que donc lui dit, en gros, un concile est infaillible, donc le concile Vatican II est infaillible, et donc, puisqu'il est infaillible, il n'y a pas d'erreur dans le concile, donc puisqu'il n'y a pas d'erreur dans le concile, on doit suivre. Bon. Alors, je dis bien, le concile Vatican II, c'est pas voulu doctrinal mais pastoral. Et donc, il n'a rien inventé, parce qu'il est pastoral et pas doctrinal, et donc, on n'est pas tenu de le suivre. Bon. Après, je lui dis, la question du pape. Donc, il me dit, vous permettez de juger le pape. Je dis, c'est pas que je juge le pape, c'est que l'Église, elle existe depuis 2000 ans. Donc, depuis 2000 ans, on sait quand même ce qui est catholique et ce qui n'est pas catholique. Donc, moi, quand je vois le pape qui baise le Coran, ben, moi, ça me pose problème. Peut-être ça vous fait rien, mais moi, ça me pose problème. C'est quand on voit ce que l'Église a pu, l'attitude, si vous voulez, des papes vis-à-vis, enfin donc des musulmans ou des, enfin vis-à-vis de l'islam, vis-à-vis des autres religions, même déjà du protestantisme, encore plus de l'islam. On se dit mais le pape qui baise le Coran, mais vous vous rendez pas compte, c'est quand même quelque chose d'impressionnant. Donc il y a quelque chose qui ne va pas dans l'Église. Le chef de l'Église qui baise le Coran, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc s'il y a des actes comme ça qui choquent le catholique de base, il n'y a pas besoin d'en faire d'être grand théologien pour être choqué par cela. Eh bien, en ce moment-là, on se pose des questions. Et donc, je dis, en ce moment-là, il y a ceux qui vont dire, puisque c'est le pape, je ne juge pas, et donc je le suis. Mais normalement, le bon sens montre que dans ces cas-là, on doit se dire, visiblement, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, puisque quelque chose ne va pas à la tête, eh bien, surtout quand on sait ce que j'ai dit au début de la conférence, sur le fait que l'ennemi cherche à pénétrer à l'intérieur, cherche à faire en sorte qu'ils aient un pape qui soit selon leur profil, et que je constate que c'est à peu près ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, alors je me dis, moi, je ne peux pas, dans ces cas-là, cautionner une chose pareille. Alors maintenant, dire qu'il n'est pas pape, attention, c'est que j'ai aucun pouvoir pour le dire. Il y a un adage de l'Église qui dit « prima sedes animine judicatur », donc le siège de Pierre ne peut être jugé par personne. Donc la question du pape ne peut être jugée que par un pape ou par un concile. Donc moi, c'est pas à moi de juger le pape. Mais par contre, en tant que catholique, je veux rester catholique. Donc moi, je ne veux pas cautionner quelque chose qui n'est pas dans la ligne de la foi de toujours. Et donc, puisque la foi existe depuis 2000 ans, je reste fidèle à ce qui a toujours été enseigné. Donc, écoutez, par exemple, ce qu'écrivait déjà Saint Vincent de Lérins au 5e siècle. Il est indispensable que tous les catholiques, désireux de prouver qu'ils sont enfants légitimes de leur mère l'Église, s'attachent à la foi sainte des pères, s'y lient étroitement, et d'autre part, qu'ils détestent les nouveautés profanes, qu'ils les aient en horreur, qu'ils les combattent et les pourchassent. Donc le signe du catholicisme, c'est qu'on affirme la vérité et on combat les erreurs. Ça, c'est catholique. Mais si un pape qui ne combat plus les erreurs, alors on se dit, il fait amour avec tout le monde, on se dit, oula, il y a quelque chose qui cloche. Ça, c'est pas dans la ligne de la religion catholique. On voit que le pape dit qu'il a la passion de l'unité, donc il voudrait ramener. Mais quelle unité? C'est la question, c'est quelle unité? Bien sûr que ça part d'un bon sentiment, l'unité, mais nous aussi on est pour l'unité. Mais l'unité, elle peut se faire que dans la vérité. Alors maintenant, on va dire, d'accord, il y a des cas où un inférieur peut désobéir au supérieur. D'accord, ça j'ai compris. J'ai compris aussi que le pape, eh bien, le Saint-Esprit lui a été promis, non pas pour qu'il fasse n'importe quoi, mais pour qu'il garde la foi dans son intégrité. Mais maintenant, est-ce que j'ai quand même le droit de lui désobéir si j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche? Eh bien, ici, on va s'appuyer sur les théologiens. Donc, je prends les théologiens les plus classiques, si vous voulez. Saint Thomas d'Aquin, Cajetan, Suarez, Saint-Robert Bellarmin. Tous les théologiens sont unanimes à ce sujet. Donc, je cite ici que Saint Thomas d'Aquin. S'il y a un danger imminent pour la foi, s'il y a un danger imminent pour la foi, et vous voyez bien que dans le modernisme, il y a un danger imminent pour la foi. Le pape Saint-Pilice l'a bien dit. Le pape Pion se l'a rappelé. Les prélats doivent être contredits, même en public, par leur sujet. Donc voilà ce qu'écrit saint Thomas. Lorsque la foi est en jeu, les prélats doivent être contredits, même en public, par leur sujet. Et il prend un exemple. Ainsi saint Paul, qui était un sujet de saint Pierre, l'interrogea publiquement à cause d'un pressant danger de scandale en matière de foi. Et comme l'indique le commentaire de saint Augustin, saint Pierre donna lui-même l'exemple à ceux qui gouvernent, afin que si jamais ceux-ci s'écartaient du droit chemin, ils ne refusent pas, comme faisant injure à leur dignité, une correction qui vienne même de leur sujet. Donc c'est dans la Secunda Secundae, question 33, article 4, ad secundum. C'est très intéressant ici parce que saint Thomas d'Aquin prend l'exemple de saint Paul qui a reproché à saint Pierre. Saint Paul était évêque, saint Pierre était pape. Saint Paul a reproché à saint Pierre sa conduite. C'est dans l'épître aux Galates, chapitre 2. Saint Pierre, en fait, avait une attitude ambiguë vis-à-vis des juifs qui se convertissaient. À savoir que, en gros, si vous voulez, pour schématiser, on va dire que les juifs mangeaient cacher, et les juifs qui se convertissaient continuaient à manger cacher. Bon, je symbolise, hein, je caricature un peu, mais c'est à peu près ça. Donc, ils mangeaient cacher, et du coup, les païens qui, eux, voulaient se convertir, eh bien, ils étaient freinés dans leur conversion parce que quand ils devenaient chrétiens, ils étaient aussi obligés de manger cachère. Donc, du coup, ça freinait, en fait, les conversions. Alors, saint Paul, voyant ça, reproche à saint Pierre son favoritisme à l'égard des Juifs. Et il dit non, en ce moment-là, dès qu'ils se convertissent, il faut leur dire, maintenant, c'est fini de manger cachère. Voilà. Et alors, indirectement, c'était la foi qui était en jeu parce que ça freinait les conversions. Et du coup, saint Paul a reproché à saint Pierre sa conduite. Et saint Thomas d'Aquin, donc, cite ce passage, et ensuite il reprend ce que dit saint Augustin, qui lui-même a donc commenté ce même passage, et dit que saint Pierre a donné l'exemple à tous les papes qui suivraient, pour le cas où un jour, un pape s'égarerait. Donc saint Pierre, en acceptant le reproche de saint Paul, a donné l'exemple aux papes d'accepter les reproches de leurs subordonnés, pour les cas où il y aurait un dérapage dans le domaine de la foi. Donc c'est très important de connaître cela. Et de fait, l'histoire nous apprend que des saints, et même de futurs papes, ont protesté ouvertement contre des actes du pape et menacé de se soustraire à toute obéissance si le souverain pontife n'adhérait pas à leur condamnation. On a vu par exemple saint Brunon de Sénic et l'archevêque de Vienne, le futur pape Calixte II, s'opposer avec plusieurs cardinaux au pape Pascal II, au sujet de l'investiture des cardinaux qu'il avait accordé à l'empereur d'Allemagne en 1111. Donc voici ici une lettre qui est écrite donc par saint Brunon et qui est adressée au pape Pascal II. Donc elle est écrite par un saint et adressée au pape. Et on croirait que, en fait, c'est Mgr Lefebvre qui l'adresse au pape Paul VI ou Jean-Paul II. Voici cette lettre, un extrait de cette lettre. « Mes ennemis vous disent que je ne vous aime pas et que je parle mal de vous, mais ils mentent. Je vous aime comme mon Père et mon Seigneur et ne veux point avoir d'autres papes de votre vivant, comme je vous l'ai promis avec plusieurs autres. Mais je dois aimer plus encore celui qui nous a fait, vous et moi. Je n'approuve pas ce traité si honteux, si forcé, si contraire à la religion. Nous avons les cinq canons depuis les apôtres jusqu'à vous. C'est le grand chemin dont il ne faut point se détourner. Confirmez ces canons, vénérable Père, et par l'autorité apostolique, condamnez l'erreur contraire. Vous verrez aussitôt l'Église paisible et tout le monde à vos pieds, vous obéissant comme à leur Père et à leur Seigneur. Ayez pitié l'Église de Dieu, ayez pitié de l'épouse du Christ, et qu'elle récupère par votre prudence la liberté qu'elle a perdue par vous. » Donc on voit ça dans Rohrbacher, Histoire universelle de l'Église catholique, livre 67. Maintenant, le temps passe et j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais un mot si vous voulez, donc je vais essayer d'être très rapide, un mot sur la question des sacres. Donc jusqu'ici j'ai montré que donc il y a des cas où on peut donc désobéir au pape. Bon, et là puisque la foi est en jeu, il y a matière en fait à ne pas suivre le pape. Très bien. Maintenant, la question de la désobéissance est un point, la question du sacre en est une autre. Donc je vais essayer d'être le plus rapide parce que le temps passe. Mais je vous dis quand même ceci. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Mgr Lefebvre a créé un schisme en sacrant quatre évêques le 30 juin 1988? Donc ici, pour celles qui ont encore leur attention éveillée, il faut savoir que le sacre d'évêque, qui est fait sans mandat pontifical, ce qui était le cas de Mgr Lefebvre en 1988, n'est pas déjà nécessairement un schisme. La preuve, c'est que jusqu'en 1951, le sacre qui était fait sans mandat pontifical était passible d'une simple suspense, alors que le schisme était déjà puni d'une excommunication. Donc jusqu'en 1951, on punissait le schisme de l'excommunication. Mais le fait de sacrer des évêques sans la volonté du pape était puni d'une peine inférieure, la peine qu'on appelle la suspense. Donc s'il est vrai que tout sacre fait sans mandat pontifical serait un schisme, entraînerait nécessairement le schisme. En ce moment-là, le sacre fait sans mandat pontifical aurait été puni de l'excommunication, puisque le schisme est puni de l'excommunication. Or, le sacre sans mandat pontifical, jusqu'en 1951, était puni d'une peine moindre. Ce qui montre qu'il peut exister des sacres sans mandat pontificaux qui ne soient pas schismatiques. Maintenant, la preuve que les sacres de 1988 ne sont pas schismatiques, c'est que Mgr Lefebvre a donné le pouvoir d'ordre à ses évêques, mais pas le pouvoir de juridiction. Donc on distingue deux pouvoirs, le pouvoir d'ordre et le pouvoir de juridiction. Le pouvoir d'ordre, c'est le pouvoir qui est reçu en vertu de l'ordination. Le jour où j'ai été ordonné prêtre, j'ai reçu le pouvoir d'ordre. Voilà. Le pouvoir de juridiction, c'est le pouvoir qui est donné par l'autorité en place pour pouvoir exercer son ministère sur un troupeau particulier. Donc le prêtre, qui est ordonné dans un diocèse, reçoit la juridiction de son évêque pour pouvoir être curé de telle paroisse, par exemple. Bon. Donc en ce moment-là, il a juridiction sur sa paroisse. Une juridiction qui est territoriale, donc dans les limites de la paroisse. Or, justement, donc la juridiction est reçue par l'autorité, d'accord ? Et elle est transmise par l'autorité. Et donc maintenant, pour l'évêque lui-même, lorsqu'un évêque est sacré, il reçoit le pouvoir d'ordre. Et donc il est évêque. Maintenant, le pouvoir de juridiction de l'évêque est donné par le pape. C'est le pape qui donne juridiction à l'évêque sur un troupeau particulier. Alors maintenant, pour bien montrer que les évêques ne voulaient pas s'arroger de juridiction, qui elle vient du pape, et donc ne voulaient pas se prétendre de prendre une juridiction qui elle ne vient que de l'autorité en place, eh bien ils utilisent en fait leur pouvoir d'évêque que pour donc ordonner, que pour faire les confirmations, et ensuite, même pour ces sacrements qu'ils donnent, ils tournent pour bien montrer qu'ils n'ont pas coupé le monde en quatre parties en disant tel évêque, telle partie du monde, tel évêque, telle autre partie du monde, parce qu'à ce moment-là, on a l'impression que la fraternité Saint-Pie X aurait voulu en fait donc faire une autre église. Donc pour bien montrer que ce n'est pas une église parallèle, il s'agit uniquement de pallier les déficiences de la hiérarchie là où les fidèles nous demandent. Donc ce sont en fait, c'est vous, fidèles, qui nous donnez la juridiction. Donc c'est une juridiction supplétoire qui est donnée en raison de la crise. Vous, vous avez un droit strict à recevoir les vrais sacrements. En allant les recevoir ailleurs, vous risquez d'avoir des sacrements frelatés. Donc en venant nous voir, vous nous donnez le pouvoir de vous donner les sacrements. Donc c'est une juridiction supplétoire, si vous voulez, qui est liée à la crise. Et donc ça c'est très important pour bien montrer qu'il n'y a pas, en fait, donc d'église parallèle fondée par les sacres de 1988. Alors, à ce moment-là, vous pourrez me dire, d'accord, bon, il n'y a pas de schisme, très bien, mais quand même, Mgr Lefebvre a été excommunié. Bon, ici, l'argument n'est pas encore décisif, dans le sens où je pourrais vous rétorquer aussi que saint Athanase a été excommunié par le pape Libère, et il est maintenant sur les autels. Et de même, le cardinal Journet assurait qu'il se pourra que le pouvoir canonique soit égaré par de faux témoignages, par l'ignorance ou la passion de ses dépositaires quand il portera une sentence d'excommunication. L'obéissance serait alors impossible et il faudrait supporter l'excommunication avec foi et humilité. Donc le cardinal Journet, théologien, dit qu'il pourra y avoir des cas où l'autorité abusera de son pouvoir lorsqu'elle prononcera une sentence d'excommunication. Voilà ce que dit le cardinal Journet. En réalité, par rapport à l'excommunication, il faut savoir, là encore, excusez-moi, une petite minute d'attention encore, qu'il existe deux types de peines prévues par le droit canon. Il existe deux types de peines prévues par le droit canon. Premier type de peine, ce sont les peines qu'on appelle late sententiae. Ce sont des peines qui tombent d'elles-mêmes. une femme qui avorte, qui sait qu'il y a une peine qui est rattachée à l'avortement, elle est excommuniée. Il n'y a pas besoin qu'un prêtre, qu'un évêque ou que le pape dise « vous êtes excommunié ». La femme qui fait un avortement et qui sait qu'il y a une peine, elle est excommuniée. Donc c'est une peine latae sententiae, qui tombe d'elle-même. Ensuite, il existe des peines qu'on appelle « ferende sententiae », donc qui est portée par l'autorité. C'est l'autorité qui dit « vous, je vous excommunie ». D'accord ? Alors maintenant, la question du sacre fait sans mandat pontifical rend de la première catégorie de peine. Donc c'est une peine qu'on appelle latae sententiae, donc une peine qui tombe d'elle-même. Mais maintenant, il faut savoir que dans les peines latae sententiae, ne sont pas passibles de ces peines ceux qui ont agi en croyant qu'il y avait nécessité. Donc qui ont agi d'abord par nécessité ou en croyant même qu'il y avait nécessité. Donc je vous cite ici le canon 1323, n'est punissable d'aucune peine la personne qui a agi poussée par la nécessité, ni même celle qui a agi en croyant qu'il y avait nécessité. Donc l'aspect subjectif qui est la deuxième partie, je laisse tomber. La première partie, donc c'est donc l'état de nécessité qui a justifié les sacres de 1988. Et Monsieur Lefebvre avait bien montré qu'il y avait une nécessité de sacrer pour la survie de l'Église, c'est pour ça qu'il avait appelé les sacres l'opération survie. Donc pour la survie de la tradition, il était nécessaire de sacrer, pour le bien de vos âmes et pour le bien des âmes. Mais maintenant, il y a une connotation subjective qui a été rajoutée dans le nouveau droit, qui n'existait pas dans l'ancien droit, mais qui a été rajoutée dans le nouveau droit, dans le droit canon donc de 1983. Alors cette connotation subjective a été rajoutée, si vous voulez, parce qu'aujourd'hui, c'est dans la conception personnaliste, c'est toujours comment tu te sens, qu'est-ce que tu as cru en ce moment-là, voilà. Mais donc nous, bien sûr, on peut en profiter en ce moment-là vis-à-vis des autres, si vous voulez, comme argument ad hominem, de dire, quand bien même vous estimez qu'il n'y avait pas nécessité pour Mgr Lefebvre de sacrer des évêques, vous devez quand même admettre que Mgr Lefebvre a cru qu'il y avait nécessité. Il suffit de lire tout ce que Mgr Lefebvre a pu dire à ce moment-là, pour au moins croire qu'il y a nécessité. Et ça suffit pour que, de fait, Mgr Lefebvre n'ait pas été excommunié. Et le pape, le 2 juillet 1988, donc, n'a pas, si vous voulez, excommunié Mgr Lefebvre. Il a simplement dit, conformément au canon temps, Mgr Lefebvre est excommunié. Donc, peine latae sententiae, non pas ferende sententiae. Et donc, nous, on dit, non, la peine ne vaut pas. Elle ne vaut pas puisque il agit, eh bien, poussé par la nécessité. Et ce qui est très intéressant, c'est que le père Muret, qui est docteur en droit, a soutenu brillamment en juin 1995 sa thèse à l'université grégorienne de Rome, précisément sur ce sujet d'excommunication, et sa conclusion est d'autant plus probante pour nous, et plus intéressante pour nous, que lui-même n'est pas traditionaliste. Et donc il y a eu félicitations du jury pour avoir... Bon, après, quand c'est remonté après plus haut, bon, il s'est fait taper sur les doigts, mais enfin bon, ça c'est... On peut pas tout dire, bon, voilà... Donc, je pense vous avoir dit l'essentiel. Alors maintenant, juste en conclusion, alors, la conclusion, elle est simple, je pense qu'elle est claire pour vous. Même si elle est aujourd'hui marginalisée par ceux qui sont au pouvoir, la fraternité Saint-Pie-X est bel et bien une œuvre d'Église. Et on juge l'arbre à ses fruits, et on peut voir donc des fruits catholiques dans la mouvance de la fraternité. Ce sont les bonnes familles, familles équilibrées, familles nombreuses, des bonnes écoles, les vocations, des ordres contemplatifs et actifs, et bien d'autres œuvres catholiques. Ici, trois exemples, si vous voulez, qui, pour terminer, donc dans la conclusion, qui montrent bien la catholicité, si vous voulez, de la fraternité. Tout d'abord, la réflexion d'un prélat romain lors de notre pèlerinage à Rome en l'an 2000. Le prélat romain qui était donc chargé de voir si le pèlerinage se passait bien, a fait cette réflexion, je ne sais plus si c'était un de nos prêtres ou un de nos évêques, en voyant notre pèlerinage, à la fin du pèlerinage, en sachant qu'il y avait donc des gens de tout pays, donc qui étaient dans ce pèlerinage à Rome, il y avait des jeunes et des moins jeunes, bon, beaucoup d'entre vous étaient présentes. Vous nous avez fait redécouvrir ce qu'est une chrétienté. Vous nous avez fait redécouvrir ce qu'est une chrétienté. Eh bien, c'est quand même un bel éloge, si vous voulez, de la part donc de Rome ce jour-là.